CO2 Mon Amour, avec le WWF. Changeons nos modes de vie pour vivre en harmonie avec la nature. Rendez-vous sur www.fr.
Alors, comment trouvez-vous mon petit poulet New Orleans, macéré dans de la mayonnaise à la menthe?
Une belle bête, hein. Belle bête, c'est printanier, mais c'est pas décongelé.
CO2 Mon Amour.
Ah zut, ça c'est le four. C'est le four à micro-ondes, c'est le four.
Ah, ça, les fours à micro-ondes, ben, les surgelés, c'est pas dans la poche, hein, ça je le savais. Vous inquiétez pas, j'ai d'autres trucs. Ah !
Avec Denis Chessou.
Cornflakes, vous aimez ?
J'adore, j'adore. Surtout que j'ai l'habitude d'en manger le matin, pas le soir. C'est merveilleux pour moi de changer comme ça.
On va se régaler.
Sur France Inter.
Bon appétit. Heureuse ? C'est dégueulasse, quoi. Dégueulasse.
Ah ben ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec aujourd'hui à la technique Kevin Pello et Théo Lacombrade, et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Allez, allez, je secoue, je fais tourner la roue, je suis un puits de pétrole et là je jouis, je suis en pleine forme, j'ai de l'avenir et j'apprends quoi cette semaine dans le monde? Eh bien que malgré la lutte contre le CO2, la consommation d'or très noir devrait progresser au moins jusqu'en 2040, orgasme général chez tous les traders. Bref, ça va chauffer encore et en cœur car il ne semble pas qu'il y ait demain baril en la demeure. Et je secoue, je fais toujours tourner la roue, je tombe sur la case huile de palme. Là aussi, c'est formidable. Je vous renvoie à l'émission du 24 mars avec Sylvain Angerand, des Amis de la Terre, qui nous apprenait que 75% de l'huile de palme que nous consommons est incorporée dans les carburants que nous trouvons à la pompe. Bah et donc, la dite bio-raffinerie géante de la Med dans les Bouches-du-Rhône fera bondir l'importation de 64%. Donc merci Total et l'État qui affiche d'ailleurs sa volonté de mettre fin à la déforestation importée. Ouais, mais alors pourquoi ? Bon, attendez. L'Indonésie, c'est des copains. Enfin bon, c'est des relations. On importe de l'huile de palme et nous, on exporte des rafales. Hein, vous comprenez ça, vous comprenez mieux maintenant, votre enfant de 6 ans peut vous expliquer. Donc amusez-vous à faire écran de fumée avec l'huile de palme de Nutella, c'est vrai que pour lutter contre l'obésité, il y a sûrement mieux, mais ça nous arrange parce que les vrais enjeux sont souvent un peu ailleurs. Quoi, l'huile de palme ne serait pas très écologique et pas très orang-outan compatible? Combien de divisions les grands singes? Ah, vous avez une autre question? Je secoue, je fais tourner encore la roue cette semaine. Tous les deux sont jeunes, beaux, énergiques, libéraux, tournés vers l'avenir. Justin Trudeau, Emmanuel Macron, tous deux main droite sur le cœur, défendent donc l'accord de Paris, la COP21, et ce danger qu'est le réchauffement pour les démocraties et l'humain. Alors ils sont garants de cette lutte face à Trump, et là bien sûr ils visent tout à fait juste. Et tous les deux sont aussi OK pour signer le CETA, accord commercial et d'investissement entre l'Union européenne et le Canada, accord un poil climaticide. Et M. Trudeau continuera d'élargir le gros tuyau transmontaine entre l'Alberta et Vancouver. Il y a bon les sables et schistes bitumineux. Après la tournée des grands ducs, celle des grands oléoducs.
Bon, on s'en forme, Denis. Une petite dernière, peut-être.
Mais oui, cher Frédéric Danoué, je secoue et je tombe sur la journée mondiale des poissons migrateurs.
Je la connaissais pas, celle-là.
Non, parce que sauf 4 pêcheurs amis de l'eau, donc ils sont à l'écoute, vous ne le saviez pas. Heureusement, CO2, mon My Love, est là. Alors, les aloses qui nous écoutaient, les lamproies marines, les anguilles, les saumons, les truites de mer, allez-y, parce qu'elles ont besoin de réaliser une partie de leur cycle de vie dans les fleuves en eau douce et l'autre en salant leur vie dans l'eau de mer. Donc, allez-y, il faut remonter, il faut frayer. Comment ça, il y a plein d'obstacles sur mon passage? Je sais pas, moi, faut ramper, faut voler au-dessus des seuils, des barrages, faut s'adapter. Tenez, faut être agile, comme un contrat de travail qui tient maintenant sur un post-it ennemi. Mais oui, on est avec vous, les aloses, avec vous, les saumons. Et surtout, et là, sérieusement, faut lutter contre un bon état, évidemment, des eaux, les uns et les autres. Donc, je dis bien que c'est la journée des migrateurs, pas des migrants, parce que pour eux, pas de journée spéciale, c'est tous les jours qu'on leur fait leur fête. Cher Frédéric Danoué, vous qui êtes chroniqueur dans cette émission, on a fait une petite actu, il y en avait d'autres.
Il y avait le rapport de la Cour des comptes sur les énergies renouvelables qui recoupe un peu ce rapport d'Aramco sur le pétrole, mais on ne va pas en parler pour ne pas désespérer, l'auditoire.
Non.
On en parlera plus tard.
Voilà. Et puis il y a la journée de l'agriculture urbaine, ça marche plutôt pas mal.
Ça marche plutôt pas mal, ça, oui, notamment bien. À Paris. Voilà.
Et donc on a aussi notre belle journée de la Terre, ça a lieu demain, et donc on va retrouver Hubert Reeves, donc astrophysicien que vous connaissez, qui a pris le pouls de l'univers des étoiles, nous sommes tous des poussières d'étoiles, c'est une très belle image qu'il a trouvée, Hubert Reeves. Et donc, journée de la Terre et des hommes qui s'essuient un peu dessus comme sur un paillasson. Donc demain, journée de la Terre, 184 pays concernés, 500 millions de personnes. Cher Hubert Reeves, bonjour à vous, de quoi s'agit-il ?
Bonjour Denis. Alors je dirais le plus important aujourd'hui, c'est d'éveiller une conscience à l'échelle de la planète devant la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes à veille de changements majeurs dans notre mode d'exister, dans notre mode de vivre, à cause du réchauffement climatique, à cause du fait que les humains ont affecté leur planète comme elle n'a jamais été affectée dans le passé et qu'il faudra vivre avec ça. On ne retrouvera jamais ce qu'était la situation sur la planète il y a 200 ans avant l'âge industriel. Et il faut savoir que ça va être un bouleversement majeur auquel il faut se préparer, c'est-à-dire que nos conditions de vie vont changer et nous allons apprendre que l'essentiel, si on veut résister, si on veut exister, si on veut continuer à durer, c'est qu'il faudra s'adapter. Dans la nature, nous sommes une espèce parmi beaucoup d'autres. Beaucoup d'espèces sont apparues dans le passé. Beaucoup ont disparu parce qu'elles n'ont pas su s'adapter au changement. Nous sommes à veille de cela et il est heureux de voir que cette information se répand rapidement. Je pense par exemple à la COP21 à Paris en 2015, quand il y a eu ce moment historique où 194 pays se sont mis d'accord sur un point. C'était une des premières fois dans l'histoire de la planète que nous avions cette unanimité à l'échelle planétaire. Ce point, c'était « il y a un problème ». Ce problème, c'est le réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique va changer nos conditions de vie. Et il faut être prêt. On se prépare à un combat majeur qui pourrait aboutir à notre élimination.
Alors, faut arriver aussi donc à être enthousiaste face, on va dire, à ce combat. Donc, c'est peut-être un peu un oxymore là que je présente, mais malgré tout, il y a quand même des enjeux que l'on connaît, mais aussi des résultats qui peuvent être extrêmement positifs. Parce qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, cette notion de consommation totalement débridée qui nous envoie dans le mur est relativement récente. Donc, il y a peut-être moyen d'inventer autre chose. C'est ce que l'on essaye de faire.
C'est pas qu'elle soit vraiment récente, c'est qu'elle prend de l'importance parce que l'humanité est très nombreuse et que c'est à l'échelle de la planète. Les êtres humains ont toujours saccagé leur planète, ça c'est pas nouveau, mais comme il y avait peu d'êtres humains, c'était pas très grave. Il y a eu des extinctions dans le passé de beaucoup d'animaux dus à l'activité humaine, mais ça n'avait pas l'amplitude planétaire que cela a aujourd'hui. Par exemple, le fait que nous pêchions, nous avons des bateaux de pêche qui sont si puissants qu'ils pêchent deux fois plus de poissons qu'ils ne s'en reproduisent naturellement. Vous voyez, nous atteignons là les limites que la planète peut nous donner. Notre planète n'est pas infinie. Et depuis quelques décennies, c'est assez récent, ces mots de écologie, environnement sont devenus dans le vocabulaire. C'est très heureux parce que nous sommes confrontés à cette situation de notre très grande puissance, de notre très grand impact sur la planète et du fait que nous devons coexister avec une planète qui est maintenant sur beaucoup de plans bien dénaturée, bien abîmée.
Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller vous rencontrer sur le banc du temps qui passe, hein, donc c'est le titre de votre dernier ouvrage, Hubert Reeves, d'aller vous rencontrer tranquillement chez vous au pied de cette forêt du millénaire que vous avez plantée, et puis je vous souhaite vraiment le meilleur. À très bientôt, Hubert.
Merci beaucoup, Denis. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir à vous. Et donc, le thème de cette émission, eh bien, ça va être les grands projets utiles ou inutiles, aménagement ou déménagement du territoire. Et donc, sous les yeux, un ouvrage édité chez Textuel, qui est signé d'un collectif qui s'appelle Des plumes dans le goudron et qui s'appelle le livre Résister aux grands projets inutiles ou imposés de Notre-Dame-des-Landes à Bure. Mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui. Bonjour, Julien Milanesi.
Bonjour.
Alors, vous êtes, Julien, donc, maître de conférence en économie à l'Université de Toulouse 3. À vos côtés, Léa Sébastien, qui est maître de conférence aussi, géographe à l'Université de Toulouse 2. Juste rapidement, avant de rentrer dans notre sujet après la chanson, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce thème que nous allons donc développer ?
Que c'est un ouvrage donc qu'on a réalisé à quatre, avec deux autres collègues chercheurs, Jérôme Pellin qui est géographe et Anaïta Grissoni qui est sociologue et urbaniste. Et c'est un livre que nous avons écrit à partir de nos expériences partagées, aussi bien d'enseignants que d'observateurs plus ou moins proches de ces luttes contre des projets inutiles imposés, qu'ils soient grands ou petits. D'ailleurs, il y en a beaucoup de tout petits qui sont combattus un petit peu partout sur tout le territoire. Et donc nous proposons un certain nombre d'analyses sur ces mouvements, de voir voilà,
quels sont les liens, peut-être les points communs aussi.
C'est ça.
Même si les gens sont très très différents hein, dans ces différentes
luttes. Une des thèses qu'on défend, c'est quand même qu'il y a une unité en fait de ces mouvements dans les idées qu'ils défendent, dans la façon dont ils s'organisent, dans les processus qui sont les leurs du passage souvent de protestations qui concernent leur territoire proche et qui ensuite viennent à interroger le monde entier dans son organisation, etc. Donc on s'intéresse à ces processus-là et donc voilà, on propose une analyse un petit peu générale sur ces mouvements.
Et alors, non loin de vous, donc Ferhat Tellan, bonjour à vous Ferhat Tellan. Vous êtes docteur en philosophie et en histoire des sciences, vous êtes chercheur à l'université de Liège. Alors, vos domaines de recherche, c'est la politique des milieux, c'est les articulations entre les milieux, les territoires et l'écologie. Et là aussi, on avait besoin de votre regard. D'abord, vous allez pouvoir intervenir, comme on dit merveilleusement, interagir, ainsi que vous, cher Frédéric Danwey, mais vous avez l'habitude.
Oui.
Vous prenez la parole, vous n'avez pas besoin que je vous la donne, de toute façon, c'est parfait. Ferhat Tellan, donc là aussi. Il va y avoir un exemple tout à fait intéressant qui va nous emmener en Inde.
En Inde, mais surtout en Nouvelle-Zélande.
Et Nouvelle-Zélande, pardon,
parce
oui.
Parce que c'est là qu'une rivière qui s'appelle Whanganui est devenue un sujet juridique récemment. Donc ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'inventivité juridique qui est liée au territoire. Et c'est de ça que je voudrais.
Eh bien, ça va être parfait. Donc, ça va nous emmener, nous sortir de nos fuseaux horaires. Donc, vous l'avez compris, tout se passe bien. CO2 Mon Amour, vous êtes sur France Inter. Allez, quoi ? De la musique ? Mais oui. Today is a day, on ne dira pas mieux. Enfin bon, c'était quand même Ilse qui le chantait sur France Inter.
Que c'est beau, mais que c'est beau, tu te rends compte?
C'est pas une œuvre d'art.
Si! Si, un site est une œuvre d'art.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
Les architectes qui ont fait les beaux-arts, ils n'oseraient pas approcher leurs petits doigts d'un tableau de Ruiz d'Al de peur d'écorcher la peinture, mais ils n'ont pas peur de venir saccager à coups de bulldozer un paysage qui est digne, et je pèse mes mots, des plus grands chefs-d'œuvre des maîtres hollandais.
Sur France Inter.
Ah, on n'hésite pas, on n'hésite absolument pas. Alors, résister aux grands projets inutiles et imposés. Vous avez remarqué qu'on était un petit peu dans l'actualité. Donc, si je vous dis Sivens, Notre-Dame-des-Landes, Bure, la ligne Lyon-Turin, l'extension de ligne TGV, Europa City, la ferme des 1000 vaches, des éoliennes en mer. Alors, utile ou inutile? Eh oui, aménagement ou déménagement du territoire. Donc, nous en parlons aujourd'hui avec Julien Milanesi, donc maître de conférence en économie à Toulouse, Léa Sébastien, géographe aussi. Donc à Toulouse, Ferhat Tellan, donc philosophe s'intéressant de près à ces sujets, et puis donc Frédéric Danhué qui apportera sa touche de poivre, sa touche de sel, comme il le désire. C'est un petit compliment, j'ai vu un article de Natacha Polony dans le Figaro ce matin, et qui s'intitulait « La vraie révolution sera paysanne », et pour démontrer sa thèse, et bien, elle fait référence aussi à vos deux livres, « Le bio au risque de se perdre » chez Buchet-Chastel, qui marche très bien.
C'est vrai.
Et on est très très heureux. Vous avez un peu agité le cocotier il y a quelques temps sur les, avec les véganes, j'ai vu dans Libération.
Oui,
quand même.
Je me suis fait un petit plaisir.
Mais oui, c'est ça. Et puis aussi, L'assiette est dans le pré, chez Delachaux et Niesley, qui nous raconte bien toute l'histoire de la paysannerie. Julien Milanesi, en fait, on va dire que ces combats, donc ces infrastructures, sans remonter forcément très très loin, mais quand même, depuis la Deuxième Guerre mondiale, alors je ne parle pas du chemin de fer, parce que évidemment, au XIXe siècle, il y a eu des tas de gens qui étaient contre le chemin de fer et qui ne voyaient pas ce progrès, on va dire, salvateur et saint-simonien. Donc il y a toujours eu aussi des critiques de la technique, que ce soit par Bernard Charbonneau, par Jacques Ellul, par Guy Debord, André Gorce et d'autres, mais... Bon, on peut se souvenir des années 70 avec le Larzac, de Plogoff aussi à la pointe du Raz, de Super Phoenix. Donc, on est dans ce mouvement-là, je dirais, aujourd'hui. Où en est-on avec ça?
Oui, on est dans un mouvement, effectivement, où il y a de grands anciens intellectuels, mais aussi de mouvements. Effectivement, le Larzac, Plogoff, tout ceci sont des références. Mais ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau dans ce qui se passe depuis une dizaine, une vingtaine d'années, qui passe par une structuration particulière qui est autour de cet acronyme qu'on a repris dans le titre, qui est Grand Projet Inutile et Imposé, qui a été créé, en fait, par des associations qui se sont rejoints en 2010, des associations européennes qui s'opposent à des lignes à grande vitesse, des projets de lignes à grande vitesse, et autour d'un acronyme et de revendications communes, et qui ont été ensuite rejoints par toute une série d'associations qui se battent contre des autoroutes, des incinérateurs, tout ce que vous pouvez imaginer, des grandes surfaces. Il y a beaucoup de luttes contre les grandes surfaces.
Déjà, vous classez ça en trois natures de projets. Vous avez les projets qui sont liés à l'extraction, donc ça va être gage de schiste, ça va être les sables marins, par exemple, du côté de Lannion, mine d'or, d'ailleurs, en Guyane, on est dans l'actualité. Vous avez des projets qui sont liés à la transformation du territoire, donc c'est aussi bien Notre-Dame-des-Landes que les LGV, que Roibon et Center Park, que la centrale de biomasse de Gardanne, et puis les projets qui sont liés aussi aux déchets. Alors là c'est Bure, par exemple, déchets nucléaires, puis aussi, on peut citer Saint-Escobie, que connaît bien Léa, donc dans la Beauce, on va pouvoir en parler. Donc voilà, ça c'est pour situer un petit peu les trois natures de projets. Mm-hmm. Et tout ceci est quand même malgré tout fédéré par des... Il y a des points communs?
Alors il y a des points communs sur les procédures que suivent ces mouvements dans leur politisation, puisque c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire qu'on dit que ces mouvements se politisent par l'intermédiaire de leur lien au territoire, dont ils partent en fait initialement, sont des gens à la base qui défendent leur territoire et rentrent dans un processus comme ça de montée en généralité, de politisation, qu'a notamment très bien décrit Léa dans ses travaux de recherche, et en arrive finalement à défendre des visions du monde qui sont contradictoires, des visions de l'intérêt général, et c'est là qu'on va trouver une fracture avec ce qui pouvait être la situation dans les années 60, où on pouvait considérer qu'il y avait peut-être un assentiment général sur ce que pouvaient être les projets utiles ou pas à la société. Aujourd'hui,
qui était décidé de façon extrêmement régalienne, avec
oui,
les plans.
Oui, et de façon encore plus autoritaire qu'aujourd'hui, on pourrait dire même. Mais malgré le fait qu'il y ait eu, et on en parle, des procédures de gouvernance qu'on critique également, le résultat est qu'aujourd'hui, ces associations et ces opposants, de façon générale, viennent défendre une définition de l'intérêt général qui est radicalement différente de celle que défend l'État, notamment autour des questions écologiques, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient biodiversité, mais aussi plus généralement sur la place du pays et de l'économie dans la mondialisation, la place qu'on doit faire à la croissance en termes d'objectifs. On pourrait dire même qu'au-delà de combats d'intérêt général, c'est parce que des combats d'imaginaire qui se jouent aujourd'hui sur ces projets.
Alors là, vous êtes passé effectivement un petit peu vite sur peut-être sur le rôle de l'État, mais donc on a vu ces politiques d'aménagement qui étaient commandées par des impératifs, on va dire économiques et politiques, bon, et qui a signé, on va dire, son emprise sur des territoires donc tout à fait reculés de nos différentes provinces. Mais quand même, en même temps, on a aussi aménagé le territoire, Frédéric Danhé.
Oui, c'est dans votre livre, on à le lire comme ça, on a l'impression que tout ce qui vient de l'État, que tout ce qui vient de la centralisation est foncièrement mauvais. Pourtant, l'État jacobin d'essence monarchiste a fait qu'on a l'électricité, le téléphone partout, qu'on a le train, qu'on a à tort ou à raison, on en pense ce qu'on veut, qu'on a des centrales nucléaires, qu'on a un approvisionnement énergétique qui va partout. Donc, mais on a l'impression que tout ce qui vient de l'État, qui a été décidé de façon centralisée, est mauvais. Et puis, et en même temps, vous parlez des projets inutiles sans vraiment les définir. C'est quoi un projet inutile aujourd'hui? Et est-ce que, si on se reporte dans un passé, il y a 150 ans, le train, le développement du train qui a été imposé, aurait été considéré comme inutile, selon votre grille de lecture?
Léa Sébastien, peut-être?
Oui, donc on peut repartir sur effectivement l'acronyme du livre « Grand projet inutile et imposé ». Alors le G du grand, c'est défini par rapport grand par le coût, souvent c'est des méga-projets, et grand par les impacts socio-environnementaux qui sont dénoncés par les militants.
Grand Vous parlez de la corruption aussi, hein?
Oui, souvent, on est obligé de reconnaître que ces grands projets...
Vous dites que, pardonnez-moi, justement, pour apporter un peu de l'oubli, dans les points communs de ces natures de projets, vous avez à la fois des coûts élevés, vous dites que c'est entaché d'affaires et de corruption, qu'il y a du conflit d'intérêts, du trafic d'influence, qu'il y a aussi des études d'impact qui sont assez minimales, et on considère comme périphériques et pouvant être sacrifiés des territoires au bénéfice du plus grand nombre. C'est un peu ça.
Les promoteurs, oui, pour rebondir sur votre... Effectivement, ils vont choisir des territoires comme la vallée de la Meuse pour Bure, ils vont, comme vous en parlez,
6 habitants au kilomètre carré, voilà, avec une population très très vieille,
90 habitants,
des territoires déserts à la biodiversité ordinaire.
Voilà, un territoire déserté qui a déjà été troué par mille et un obus, notamment ses proches de Verdun.
Bah, ce lit, il y a quand même un problème de sous-sol. Il valait mieux, effectivement, peut-être que ce soit dans l'argile.
Aussi, pour tous ces projets, ils vont choisir, certains auteurs appellent ça la géographie des espaces sacrifiés. C'est-à-dire, on va choisir des territoires mal aimés, a priori sans richesse patrimoniale aucune, a priori sans attachement, sur lesquels il n'y aura pas de résistance. Et on se rend compte qu'on a une partie là-dessus sur l'attachement au lieu, notamment sur Bure, si je peux donner cet exemple, il n'y avait pas eu de résistance locale jusqu'à assez récemment, jusqu'à ce que Cigéo, l'Andra, commence à empiéter sur le bois Le Juc, qui est ce petit bois qui a été occupé par...
lequel on doit construire donc des cheminées d'évacuation.
Et qui était la seule zone de nature qui demeurait.
Bah, disons que c'était l'emblème du territoire. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'éléments patrimoniaux, mais il y avait ce petit bois qui réunissait, où les familles allaient un petit peu aux champignons, se balader, il y avait un petit peu d'activité de chasse.
Ils aux champignons radioactifs, et puis voilà.
Oui, voilà. Et à partir du moment où ils ont touché à la forêt, ce petit bois Le Juc, qui était le seul élément finalement patrimonial, là, la résistance locale a émergé à Bure.
Alors c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'il y a un affectif supplémentaire, le petit truc, c'est pas rien, parce qu'on est tous reliés à un territoire,
exactement,
à des paysages qui nous racontent des bouts d'enfance, que sais-je. Mais est-ce que là, ça peut être un déclencheur qu'on n'attendait pas?
Tout à fait.
Et c'est là, une cristallisation. Ça cristallise tout le reste.
Bah, étudie un petit peu l'attachement au lieu sur différentes zones, souvent on est tous attachés à des petits bouts de nature, de par toutes sortes de raisons familiales, personnelles, etc., qui sont des attachements de l'ordre de l'intime. Donc on a une relation personnelle avec un bout de rivière, un bout de forêt, mais qu'on ne transmet pas forcément aux autres. C'est quelque chose de personnel. On aime en silence, en gros, ces petits éléments patrimoniaux. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est lorsque le territoire peut paraître menacé par un projet impactant, par exemple, là, on passe des attachements individuels à une dimension collective. Et là, c'est vraiment, ce passage est très net dans l'ensemble, sur l'ensemble des projets qu'on a étudiés, où on est obligé de développer un langage, une argumentation, de clamer finalement qu'on aime ce territoire, et on voit dans l'ensemble des mouvements des chansons, des pièces de théâtre, des petits films qui tournent pour célébrer ce territoire aimé, même sur des zones comme la Beauce, que moi j'ai étudié, qui est un territoire mal aimé.
Pardonnez-nous, amis Beauceron, hein, mais non, c'est non, vrai mais... que. Alors, à une époque, c'est vrai que ce merveilleux terme d'Essarté, vous avez les Essarts, etc. et tout, ça veut bien dire qu'il y avait une forêt incroyable sur la Beauce, et donc on l'a évidemment merveilleusement coupé, c'était ça. Mais maintenant, on a planté des éoliennes, quoi. C'est devenu un paysage. Ouais. Industriel agricole, hein, pour la partie plateau. Il y a des choses très fines et très jolies dans la Beauce, mais ça, c'est plutôt pour les
connaisseurs. Hein,
c'est pour les connaisseurs.
Et sur cette Beauce, par exemple, qui était où les attachements étaient tus ou inexistants, où il y avait très peu de relations entre les ruraux, les néo-urbains.
À Saint-Escobie, ils se sont tous réunis avec des intérêts complètement différents. On avait aussi bien des agriculteurs, des gros céréaliers FNSEA, des associations, des écolos.
C'est la première fois que les associations de protection de la nature dialoguaient avec les agriculteurs bosserons.
C'était un projet de décharge.
Des déchets. Alors là, la gestion des déchets, c'est le symbole même des inégalités spatiales où il s'agit d'enfouir les déchets, souvent des urbains, dans des zones rurales. Donc là, on est vraiment dans des inégalités spatiales et environnementales qui spécifiques dans la gestion des déchets.
La société de consommation, vous dites bien, paraît d'un seul coup un peu moins miraculeuse, on va dire, dès qu'on est au bord d'une décharge. Petite réaction, Frédéric, et après
Julien. Vous parlez vous mettez le doigt sur la notion essentielle de territoire vécu, dès lors qu'il est altéré, qu'il est abîmé, insulté, sali, les gens se rebellent, mais c'est aussi l'argument parfois très sensible qui est mis en avant par les opposants aux éoliennes, notamment aux éoliennes offshore. Le rapport de la Cour des comptes dont j'ai parlé tout à l'heure montre qu'en France, alors qu'au Danemark il faut 3 ans pour avoir des éoliennes, en France il y a tellement de recours par des associations qui mettent en avant ce territoire vécu, quand bien même se résume-t-il à un horizon marin, il faut 11 ans aujourd'hui pour avoir une éolienne, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs.
C'est le même temps qu'une centrale.
C'est ça.
Sur le même temps, on a eu
49 réacteurs nucléaires en France, à l'époque où, pour le coup, l'État avait une vision. Enfin bon, ça c'est autre chose. Territoire vécu, il est mis en avant par des opposants complètement différents. Comment vous faites la différence entre les deux?
Alors, il y aurait beaucoup de...
Julien Mianalisi.
Oui. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question de l'éolien en soi et du différent type d'éolien qu'on peut avoir, parce que je pense que c'est là que ça se joue. Avec, par ailleurs, il y a des projets citoyens éoliens qui fonctionnent très bien avec des.
On est d'accord, mais l'opposition contre les massives, elle est toujours de cet ordre-là, de l'ordre sensible. Vous allez abîmer mon paysage. D'une certaine façon, on en revient à ça.
La question que ça pose derrière, c'est celle sur la, comme je disais tout à l'heure, sur la montée en généralité. Et pour revenir sur votre question de la place de l'État, tout à l'heure, nous, ce qu'on dit dans le livre, et c'est peut-être moins le cas sur la question de l'éolien, qui pose une question un peu plus complexe, peut-être, c'est que sur beaucoup d'infrastructures, aujourd'hui, on peut considérer que notre pays est à satiété. C'est le cas en matière de route, c'est le cas très largement en matière ferrée, c'est le cas dans beaucoup d'équipements comme ça, des grandes surfaces, c'est vraiment l'exemple type où la France est déjà le pays d'Europe le plus équipé en mètres carrés par habitant de grandes surfaces. Et l'inutilité, pour répondre à votre question, la question de l'inutilité, elle vient souvent quand même de ce registre-là, de dire mais à quoi ça sert de refaire une autoroute à 65, par exemple, de faire une nouvelle route, alors qu'il y a déjà 3 itinéraires routiers pour relier cette ville de Bordeaux et Pau. À quoi ça sert de faire une nouvelle ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, alors qu'il y a déjà une ligne qui existe et qu'on pourrait l'aménager? Donc ce registre de l'inutilité, il est vraiment relatif à notre situation de vieux pays riche, en fait, qui était le premier pays, un des premiers pays industrialisés équipés, qui est déjà très largement équipé. Et c'est pour ça que, si vous voulez, ces associations et ces collectifs, nécessairement pose des questions qui sont très larges, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on est nécessairement là dans un changement de monde et de perception de l'avenir, du futur, à partir du moment où on est équipé. Voilà, quel est maintenant le sens de l'action publique?
Que ce soit d'ailleurs pour les individus, une fois qu'ils ont, on va dire, l'essentiel, après on nous vend du superflu, c'est le principe de la consommation. Quoi. Mais Frédéric,
oui. Du coup, vous répondez pas à ma question. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui sont contre ces champs d'éoliennes, qui défendent les mêmes arguments, c'est-à-dire notre territoire est altéré, cette décision vient du haut, vous le répondez quoi? Que finalement il y a des combats qui sont moins bons que d'autres, il y a des projets qui sont un peu moins inutiles que d'autres?
On leur répond que y a déjà une légitimité, nous ce qu'on pense c'est qu'il y a une légitimité à se sentir habitant d'un territoire et à vouloir le défendre. Donc ça c'est clairement quelque chose qui est très souvent, qui est systématiquement nié en fait dans toutes les procédures qui sont conduites autour de l'installation de ces projets. Donc Donc il y a une réponse déjà de tout simplement de respect de ces revendications-là. Moi, ce que je le dirais. Et ensuite, la question, c'est savoir quelle est la réponse institutionnelle qui est donnée. Et nous, ce qu'on montre dans le livre, c'est que toutes les procédures qui sont mises en place, procédures de, qui sont qualifiées de gouvernance, de procédures délibératives, etc., sont en fait des procédures qui donnent très peu la parole à ces gens-là et qui créent une colère, en fait. Et une...
Ça, on pourra parler effectivement de l'aspect démocratique de l'affaire. Ce que je vous propose, ce n'est peut-être... Alors, ce n'est pas sous le solaire exactement, mais elle est... Anna Karina était déjà un peu... Elle est un peu visionnaire, c'est juste sous le soleil, hein, exactement.
Un point précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil exactement, juste en dessous.
Tomates espagnoles, plutôt pas mauvaise, hein?
Il est bon, mon clafoutis.
Si on prenait le vignoble à zéro, on pourrait faire un vin magnifique.
CO2, mon amour.
Mais il y a tout ici, il y a absolument tout. Il y a des bois, il y a les vignes, il y a les fruits, il y a les légumes.
On pourrait faire un très grand potager là-bas.
Ouais.
Planter des pommiers, des poiriers, un peu de blé.
Oh, j'ai jamais senti aussi jeune depuis 30 ans.
Sur France Inter.
Vive la Révolution!
Vive la Révolution!
La Révolution!
Vive la Révolution!
Ah, mais parfois il y a un peu de ça, donc avec ces mouvements, donc quand même contestataires, dont on parle aujourd'hui, donc sur France Inter, c'est au de mon amour, résister aux grands projets inutiles et imposés. Alors, effectivement, pour certains, ce seront des projets mais parfaitement donc utiles, d'autres parfaitement inutiles. C'est jamais très simple. Où est l'intérêt général? Est-ce que c'est l'intérêt effectivement des grosses firmes, des grands groupes? Et c'est un peu d'ailleurs aussi ce qui se dit, c'est que à une époque, il y avait un intérêt, on va dire général, c'est-à-dire qu'on planifiait, on a planifié donc le territoire. De la même manière qu'on a dit, par exemple, aux Bretons, vous allez produire des poules, des cochons, des vaches, etc. Et après, vous allez ramasser la pollution là-dessus. Et on va mettre la paille davantage dans le centre. Bon, là, c'était pour la, c'était le côté agricole. Bah, là, c'était une autre vision avec ces grands projets. Donc, mouvement de résistance, on le voit au projet. Mais derrière tout ça aussi, est-ce que l'on voit quand même aussi mouvement de résistance contre le monde qu'il représente, Julien Milanesi ou bien Léa?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que au démarrage, ce sont les habitants, les riverains, parce que ce projet arrive sur un territoire et il concerne des habitants qui sont un petit peu sous le choc, hein, ils sont face à l'appropriation d'un territoire quotidien qu'on va leur voler, et donc ces gens sont
très souvent ils la prennent par la bande, hein. C'est jamais très simple le début pour savoir, c'est pas toujours le maire, alors, sauf si le maire est remonté, hein, bien sûr, mais
souvent ils la prennent un petit peu trop tard, de manière pas forcément directe, sans concertation, peut-être qu'on en reparlera des procédures des débats publics, mais une chose est sûre, que c'est au début ces gens sont contre le projet et veulent défendre un territoire. Et rapidement s'agrègent d'autres personnes qui viennent sur ce territoire pour défendre une idée. Et donc, une idée, c'est-à-dire le monde qui va avec l'infrastructure. On est contre l'aéroport et le monde qui véhicule davantage de mobilité, davantage d'émissions de CO2, etc. Et ce qui est intéressant qu'on a constaté au sein de ces mouvements de résistance, se côtoient ceux qui veulent défendre un territoire avec ceux qui veulent défendre une idée, une vision du monde. Des populations qui sont pas forcément toujours d'accord au début, mais au fil, ces résistances s'inscrivent toujours dans une longue temporalité. Hein. On parle de 10-15 ans souvent de négociations, de luttes. Et avec cette temporalité longue, se créent des métissages entre ces deux populations qui, in fine, défendent tous les deux à la fois le projet et le monde qui va avec, le territoire et une vision du monde.
Alors, je vais me tourner vers vous, donc vers notre docteur en philosophie, donc Ferhat Taylan, et aussi docteur en histoire des sciences, parce que là, j'aimerais que l'on fasse non pas un pas de côté, parce qu'on est vraiment aussi un peu dans ce sujet avec ces milieux communs. On connaît les biens communs, il y a peut-être aussi donc des milieux communs. Et racontez-nous, parce que vous avez travaillé, tout à l'heure je parlais du Gange, mais vous avez aussi travaillé donc sur la Nouvelle-Zélande. Et dans cette Nouvelle-Zélande, donc combat politique qui a été mené par les Maoris, qui font face, on va dire, au pouvoir colonial. Alors, que s'agit-il, de quoi il s'agit, s'il vous plaît?
Alors, ce cas, effectivement, de la Nouvelle-Zélande et de la reconnaissance juridique de cette rivière, ça m'intéressait parce que ça nous montre que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire des fois, le droit, ce n'est pas quelque chose d'immuable ou de complètement définitif. Heureusement, il évolue. Heureusement, d'ailleurs, parce qu'en écologie, on a quand même besoin d'une sorte d'inventivité juridique. Et alors, ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, c'est que cette rivière Whanganui donc a été a eu un statut de sujet de droit accordé par le Parlement de la Nouvelle-Zélande en mars 2017. Et même si ce n'est pas un cas de grand projet inutile à imposer, il n'y a pas de grand projet, mais il y a un combat mené par les Maoris donc qui voulaient, et ils voulaient quoi? En fait, ils voulaient la création d'une nouvelle entité juridique où les humains sont juridiquement inséparables des composants naturels de leur nature, milieu. Oui. Alors concrètement, ça donne quoi? Ça donne par exemple le fait que si un dommage est porté à la rivière, c'est considéré comme un dommage porté directement aux humains. Donc au niveau des droits que ça peut, au niveau des droits que vous pouvez réclamer, c'est quand même une avancée assez intéressante.
Ça qu'on touche pas loin du sacré là.
Alors, effectivement, c'est là qu'il faut être très prudent dans la comparaison, parce que pour les Maoris, c'est un territoire sacré. Mais ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est les possibilités juridiques que ça ouvre. Au-delà, je ne suis pas du tout dans la sacralisation de la nature, bien au contraire. Et je pense, par exemple, au thème d'attachement au territoire dont on parlait tout à l'heure avec Léa. Et ce qui se passe ici, c'est la possibilité d'une reconnaissance juridique des attachements qu'on a, des relations que les humains ont au milieu, au-delà d'une simple protection d'un élément de la nature.
C'est une valorisation de façon spirituelle de la nature. Il faut donner une valeur spirituelle aux choses. Alors, pour les préserver, pour les protéger.
Ce n'est pas nécessaire.
Ça, ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, non?
Alors, ce qui s'est passé, ça peut être interprété de différentes manières. On peut mettre l'accent sur l'aspect spirituel et sacré, qui est une dimension de la chose, je ne lis pas. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la possibilité d'en faire autre chose. À savoir, si on voulait reconnaître une entité mixte, à savoir un milieu naturel plus le collectif qui l'habite, comme entité juridique, cette voie est ouverte par cette loi-là. Donc on peut faire autre chose que...
Mais qui s'est basé sur une lecture écologique, anthropologique, parce que ça va loin quand même. Reconnaître que l'homme est dépendant de la nature, c'est, on peut voir ça d'un aspect religieux, un aspect purement spirituel, un aspect écologique, peut-être un aspect juridique. Quels ont été les fondements scientifiques, entre plein de guillemets, de cette évolution juridique qui est quand même surprenante? On est dans l'animisme presque.
Alors, effectivement, plus que des fondements scientifiques, là c'était une demande du peuple autochtone maori qui voyait cette rivière comme un élément spirituel, mais il y a des retombées ou des avantages écologiques qu'on peut en tirer si on considère ça dans un ensemble un peu plus large.
Ils en sont où aujourd'hui?
Alors, c'est très récent parce que ça a été reconnu en mars 2017, donc il faudrait voir comment ça se passe sur le terrain. Mais un autre élément très intéressant, c'est que c'était un parc naturel, là où il y a cette rivière Whanganui, et la propriété publique qui régnait sur ce parc-là a donc donné lieu, a été transformée, hein, et c'est devenu donc un commun. C'est un collectif qui prend en charge en commun, un peu comme le modèle de Wikipédia. Donc vous avez un collectif qui prend en charge un être, un lieu, et dont la propriété
n'est plus... Et qui va agrémenter au fur et à mesure là, d'informations en ce qui concerne Wikipédia, mais là qui va donc jardiner donc ce lieu pour le maintenir en bon état.
Exactement. Donc on dépasse la dichotomie, la mauvaise alternative, disons, entre la propriété publique
et privée.
Oui. Et je crois que c'est vraiment dans notre actualité, puisque dans Notre-Dame-des-Landes, on parle beaucoup de ces tensions, n'est-ce pas, sur le droit de propriété. Et on voit que ici, il y a une autre alternative, qui est justement celle du commun, qui permet de passer propriété privée ou publique. Vous avez un collectif qui prend en charge.
Là, c'est vrai que sur Notre-Dame-des-Landes, donc on doit avoir 250 hectares qui sont considérés sur les 1600 au total. Donc c'est aussi ça que revendiquent les uns et les autres. Bon, heureusement, ça a quand même de se calmer. Ça a quand même été extrêmement chaud, quoi. Alors là, il faut bien reconnaître que s'il n'y avait pas eu de zadistes sur le lieu, Notre-Dame-des-Landes, ce serait fait. Là, Julien Milonesi, a priori...
Évidemment.
Oui, c'est ça,
oui.
Après, le gouvernement ne le reconnaîtra jamais, mais oui, je pense qu'on devrait presque, les rémunérer, ces zadistes, parce que pour l'instant, ils entretiennent
des copains,
les services écosystémiques de cette zone, la qualité de l'eau, la qualité des sols, etc. Par les phénomènes de compensation, enfin, on devrait presque les rémunérer, je ne sais pas s'ils seraient d'accord, plutôt que leur donner des coups de matraque. Mais
voilà, donc c'est bien dans
ces idées. C'est sûr que c'est grâce à eux, en tout cas, que c'est.
Oui, c'est ça. Même si là aussi, on le retrouve dans votre ouvrage, la population est totalement différente. Hein. Donc, je trouve que je connais aussi, j'ai croisé Julien Durand, qui est une des figures tutélaires de l'ACIPA, qui est la principale association ayant lutté contre le projet d'aéroport, bon, qui disait quand même, moi je veux bien qu'on parle de solidarité, mais pour moi, la vraie solidarité consiste à tout faire pour éviter des morts, c'est faire le minimum pour sauver le maximum. Donc il y a une fenêtre ouverte et là il faut essayer de s'y engouffrer. Voilà. Donc, et après vous avez aussi d'autres types de zadistes qui seront là dans un combat qui va être différent. C'est ce que vous mettez très bien dans votre ouvrage, quoi, aussi.
Oui, il y a une hétérogénéité dans tous les mouvements, qu'il y ait une ZAD ou pas de ZAD. Alors la spécificité des mouvements de résistance depuis 2010, c'est cette occupation de l'espace partiel ou total dépendant des lieux de lutte. Mais dans tous les cas de figure, il y a une hétérogénéité, et cette hétérogénéité permet que l'association se maintienne dans le temps. En général, si elle est mono-sociale, elle ne dure pas.
Mais la réaction très forte que vous avez vue donc, de l'État, c'est, on le rappelle quand même, 2500 donc, militaires, gendarmes, face à 200-250 personnes. Bon, donc là, on a pris le marteau pilon, si vous voulez, pour écraser une mouche. C'était quoi, si vous voulez dire, on ne veut pas de la société que vous voulez, jusqu'où on peut aller
Moi, quand j'ai vu cette évacuation, je peux vous dire mon petit sentiment personnel. D'abord, j'ai pleuré. Ensuite, j'ai eu honte d'être française. Et après, j'ai essayé de réfléchir en me disant pourquoi cette démonstration de force, une urgence à déployer, c'était presque des zones de guerre. Hein. On a vu les images sur cette évacuer une centaine de personnes. C'est que l'État, comme on le disait tout à l'heure... autant il est très enthousiaste sur les innovations technologiques, ça, le gouvernement a mis des milliards sur les start-up, etc. Là, on est face, si on veut, à une start-up sociale, hein, d'innovation sociale. Et là, par contre, alors qu'il y a énormément d'innovation, alors qu'on est dans un monde où la transition écologique va être inévitable, on sait pas, personne ne sait exactement comment il faut s'y prendre.
Les on a des laboratoires. Les architectes se sont intéressés donc aussi à Notre-Dame-des-Landes.
Tout à fait.
Non pas forcément pour se dire, voilà, on va reproduire tout de cette manière-là, mais ça leur a donné des idées aussi. Voilà,
sur des, c'est un laboratoire d'expérimentation. Et on voit que le gouvernement actuel refuse absolument qu'il y ait des voies divergentes sur son espace national.
Autre voie qu'on aime bien divergente, celle de Frédéric Danhé peut-être.
Oui, non, Julie, je suis très troublé moi, par les déclarations de Françoise Verchères, qui était la figure historique du combat contre Notre-Dame-des-Landes et qui, dans une interview à Ouest France le 19 avril, les bras lui en tombent, dit-elle, parce qu'elle considère qu'aujourd'hui certains zadis se figent, je la cite, dans une posture qui ne permet pas de négociation et que cette nouvelle forme sociale et politique avait été élaborée sur place, l'assemblée des usages. Elle dit, je la cite, tout le monde peut participer à cette assemblée, la voix de celui qui vient d'arriver a autant de poids que celui qui travaille depuis des années. Il n'y a pas de règle de majorité. Résultat, ça aboutit en fait à une impasse, une impuissance, une radicalisation. Résultat, elle s'en va, elle quitte le mouvement, elle a fermé sa page Facebook. C'est un constat un peu désarmant, assez alarmant. La question que je vous pose, c'est, on a une invention politique, on a, voilà, c'est un berceau de plein de choses qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, comme à Sivens, comme partout, et pourtant, on n'arrive pas à éviter la radicalisation de certains. La forme sociale et politique d'aujourd'hui, les formes que l'on a créées sont incapables, finalement, de se créer d'elles-mêmes, de se positionner d'elles-mêmes en rapport de force face à l'État. Il faut que, de toute façon, il y ait des extrémistes qui ne font que répondre à une forme d'extrémisme.
Alors,
à l'État.
Soit Léa Sébastien, Julien Milanesi, comme vous voulez, Julien.
Oui, oui. Alors nous, en fait, le livre se termine plutôt sur cette question-là, oui. Qui est la question en fait de qu'est-ce qui se passe une fois que le projet est abandonné. Et ça, en fait, la situation, ou construit. Effectivement. La situation qui existe à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, effectivement, est un peu inédite en ça, c'est-à-dire qu'on a une situation... Alors, non, il y a un précédent qui est le Larzac, bien sûr, elle est inédite sur la période courte sur Notre-Dame-des-Landes et donc on n'est pas ni l'un ni l'autre suffisamment connaisseur des dynamiques internes à la ZAD pour pouvoir étudier de façon fine ce qui s'y passe réellement. Donc je répondrai pas sur le détail de la question en disant simplement que pour nous c'est un sujet d'études à venir, de regarder justement comment ce qui est intéressant, ce qui s'est passé là quand même, c'est que l'attachement au territoire a dont parlait Léa tout à l'heure, a conduit derrière à la création, y compris d'alternatives, de transformation du territoire. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui va dans les deux sens, un territoire qui crée de l'attachement et qui fait que les gens le défendent, et ils le défendent tellement bien et qu'ils s'y attachent encore plus, y compris des gens qui viennent de l'extérieur et qui décident dessus d'y construire l'alternative. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau.
Ce que vous dites très bien, c'est l'existence des mouvements l'existence des mouvements de résistance à des projets d'aménagement est-elle vraiment le symptôme d'un échec de l'État ? Nous faisons l'hypothèse inverse, à savoir que ces mouvements sont le signe d'une vigueur politique des territoires. C'est ça que vous essayez de démontrer.
Oui, alors avec deux choses à l'intérieur. D'abord sur la question de la violence, pour dire quand même rapidement, une des conclusions quand même de ce combat contre Notre-Dame-des-Landes qu'on peut tirer, c'est qu'il a fallu en vrai que des gens mettent leur corps en travers, d'une façon ou d'une autre, pour que le projet ne se fasse pas. Donc ça pose une question qui est ça pose une grave question en fait, de savoir aujourd'hui si on veut arrêter ces projets-là, est-ce qu'il faut se mettre en danger, mettre son corps en travers. Et ça, c'est une des nouveautés aussi de ces luttes-là. Et puis, ce qu'on trouve intéressant et qu'on développe, nous, qui est un peu l'idée centrale du livre, c'est que, par l'intermédiaire de ces attachements au territoire, il va y avoir un mouvement de politisation qui va se faire dans la société, parmi les gens qui luttent contre ces projets, autour de la question écologique. C'est-à-dire qu'on va venir politiser la question écologique à partir de ces luttes-là, où les gens, concrètement, qui jusque-là, des habitants lambda qui ressentaient la question climatique, la crise à l'université comme façon très lointaine, vont la voir se matérialiser sur leur territoire et vont vouloir défendre leur territoire et donc derrière défendre des grandes causes écologiques.
Je vous propose une belle bouffée de printemps avec un joli message. 01 56 40 40 35. Voilà. Et là, où est-ce qu'on est? On est au pied du Ventoux.
Oui, bonjour, CO2. Je suis Chris, j'habite au pied du Mont Ventoux, dans un petit village qui s'appelle Bédouin. Ici, le printemps, c'est magnifique, les cerisiers sont en fleurs. Nous avons encore de la neige sur le haut du Ventoux, qui culmine quand même à 1912 mètres. Il a beaucoup plu ces derniers temps, donc la nature est merveilleuse, il y a des fleurs partout. Je cueille des asperges sauvages tous les jours, des poireaux sauvages tous les jours. Et vraiment, 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 je vous convie à venir partager cette nature extraordinaire qui m'entoure et qui fait mon bonheur au quotidien. Eh bien, écoutez, continuez à nous faire respirer par les oreilles, c'est toujours un plaisir. Je vous embrasse tous et je fais un petit coucou à tous les auditeurs. Au revoir, au revoir.
Merci à vous, Chris, qui écoutez régulièrement cette émission. On va essayer de respirer, non pas avec des gaz lacrymogènes, comme vous l'avez dit, mais beaucoup mieux avec ce printemps. Et puis, tenez, un autre message, toujours sur le répondeur, 01 56 40 40 35, ou un oiseau.
Bonjour, CO2, mon amour. Ils sont revenus d'Afrique le 15 et 17 mars. Sylva la femelle et Reda le mâle. Le couple de balbuzards pêcheurs, donc qui sont des aigles pêcheurs qui pêchent en Loire à Mardier, dans le Loiret, pour une saison 3. Car, comme toutes les autres années, nous les filmons en direct. Une caméra est installée sur leur aire et les images sont retransmises via Internet. Si vous souhaitez vivre tous les moments en direct, les accouplements, les pontes, nourrissage des petits, etc., allez sur notre site BalbuCam, Balbu comme balbuzard, Cam comme caméra, BalbuCam. Et en plus, cette année, on a installé un logiciel de reconnaissance de sang d'oiseaux qui identifie tous les oiseaux qui chantent dans cette forêt autour du nid. Merci CO2, mon amour. À bientôt.
Voilà, donc c'était donc BalbuCam. Vous avez noté, non, Frédéric Denry, pas cam, pas comme de la cam, c'est comme une caméra. C'est
j'ai rien dit, moi.
Vous avez fait, oui, bon, non, je vous connais. Bon, c'est bon. Alors, donc, bah oui, donc on a encore quelques minutes. Parlons quand même peut-être des outils démocratiques qui sont censés donc consulter le public. Alors, où en est-on aujourd'hui? Parce qu'il y a peut-être un léger souci, donc... En amont, Léa Sébastien.
Oui, effectivement. Moi-même, j'avais commencé à travailler sur la notion de gouvernance. J'avais une appréhension personnellement positive sur cette notion au début. Je m'étais dit, ah, ben ça y est, on va enfin vraiment se consulter tous,
bon,
etc.
Alors...
Et aujourd'hui, on n'est pas les seuls à le dire. Il y a de nombreux chercheurs qui sont d'accord avec nous pour nous dire que la gouvernance et toutes ces procédures diverses et variées sont un échec, bon, pour plusieurs raisons. Alors, pour ces grands projets, il y a deux grandes... Il y a la commission de débat public qui arrive en amont des projets. Et puis, en aval, il y a l'enquête publique. Sans aller dans les détails, ces deux procédures de concertation n'interrogent jamais le bien fondé des infrastructures. On est toujours autour des débats, autour des questions techniques. Et aujourd'hui, les citoyens, on le voit bien, ne veulent plus participer, de toute façon, à toutes ces procédures de consultation lancées, qui sont organisées par les institutions.
Enquête publique, etc.
Ils les considèrent comme un piège délibératif, un simulacre de démocratie.
Sur l'environnement, on va aussi nous parler de compensation. On va vous dire, on peut détruire d'un côté, mais on va compenser de l'autre.
Ça, c'est...
Oui, bah c'est une des lignes de fracture, nous, qu'on identifie aussi entre les visions de ces mouvements et les visions défendues par les aménageurs. Aujourd'hui, on a une position claire qui se fait entre l'idée qu'il y aurait une nature qui serait et des milieux qui seraient réversibles. Dans la situation réversible, on pourrait compenser en fait des destructions. C'est le cas sur la 65, plusieurs centaines d'hectares de zones humides ont été compensées par des achats de prairies sèches dans la plaine de Croc, je
de
crois.
De la Croc, oui, ça.
Et ce que disent le discours que tiennent là-dessus les associations, et ça pareil, on va leur trouver un petit peu partout. C'est au contraire de mettre en avant l'irréversibilité des crises environnementales. De dire, une fois que le climat aura basculé, non, on ne pourra pas venir en arrière et on ne pourra pas basculer avec des montants financiers ou autre chose. Une fois qu'une espèce a disparu, non, elle ne reviendra pas. On ne pourra pas revenir en arrière. Donc on a un discours, là, un affrontement qui est très fort aussi autour de ces conceptions des crises écologiques.
Mais c'est pas un moindre mal quand même, la compensation, parce que dans ce que vous écrivez, dans ce que vous dites là, on a l'impression que la compensation est une incitation à toujours plus abîmé, parce qu'on sait que de toute façon, c'est très judéo-chrétien, voilà, on aurait un petit bon pour continuer à, je sais plus comment on appelait ça là, à l'époque, voilà, la rémission des péchés, voilà, comme si c'était une rémission des péchés, et donc qui incita à faire des grands projets.
Des indulgences,
voilà,
j'appelle
merci
ça
Denis.
Comme ça.
Il n'y a pas un effet positif quand même à la compensation?
Moi, j'en vois pas tellement, non. Effectivement, si en dernier recours, on n'a que ça, effectivement, c'est mieux de faire la compensation que pas en faire, mais c'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, on est aujourd'hui sur de l'achat d'indulgence, comme on pouvait le faire il y a quelques siècles pour racheter ses péchés, et il n'y a pas de... Voilà, et ça, c'est une... L'idée, si vous voulez, sur ce genre... Pardon ?
Non, je vous en prie, non. il fallait que je conclue, donc c'est pour ça que j'ai...
Non, voilà, sur ce genre de choses, quand vous avez 1000 hectares qui sont détruits et par ailleurs 1000 hectares qui sont conservés à côté, vous avez toujours quand même 1000 hectares qui sont détruits.
Alors, moi je peux vous renvoyer à « Résister au grand projet inutile et imposé de Notre-Dame-des-Landes à Bure ». Bon là, le débat ouvert, hein, tout ça n'est pas terminé, aux éditions donc textuelles, mais c'était intéressant d'avoir votre regard. Je vous renvoie aussi, vous avez sorti un film, Julien Milanesi, qui s'appelle « L'intérêt général et moi », qui est très bien fait. Il sort en DVD, « L'intérêt général et moi ». Grand merci aussi à vous, Ferhat Telan, donc, d'être venu avec nous. Je sais que vous avez d'autres histoires, on pourrait pouvoir revenir pour pouvoir parler effectivement d'autres histoires, vraiment, merci. Ça nous intéresse. Bien. Merci à Camille Blanès et Xavier Pestugia qui réalisait l'émission, à Muriel Pérez qui a choisi les disques, à Anne Gouzon qui nourrit les sites. Et puis la semaine prochaine, je vais vous emmener à Saint-Bonnet-Tour-de-Mer, l'Ouest. C'est bien, c'est en Corrèze, c'est très beau, avec Jean-Michel Tellière, maire de 50 habitants et qui fait des tas de choses pour la biodiversité. Ce sera un reportage. 01 56 40 40 35, le répondeur. Le podcast, surtout, allez-y, le podcast, c'est Les Petits Bateaux. Ce sera à 19h54. Non, la Tulus. Ce sera après les pivotons, à 19h54, donc demain.
CO2, mon amour, avec le WWF. Ensemble, vivons en harmonie avec la nature. Rendez-vous sur www.fr.